Radio Grand Ciel présente le quart d'heure de santé, une émission réalisée grâce à la participation technique et musicale de Claude Casal. Au micro, Christiane Blain. Nous retrouvons aujourd'hui le docteur Roussel pour les émissions de radio qu'il concocte chaque mois. Et aujourd'hui, nous allons évoquer l'hypertension artérielle. Alors, l'hypertension artérielle, c'est un grand sujet parce que en fait, on ne sait pas que l'on en a et on peut en avoir. Donc, docteur Roussel, pour vous, quelle est la définition de l'hypertension artérielle ?
Bonjour Christiane Blain. La définition, eh bien, si vous le voulez bien, aujourd'hui, nous allons commencer par faire un peu de plomberie. Les différents organes du corps ont besoin pour fonctionner d'un apport en oxygène et en nutriments et d'être débarrassés de leurs déchets. C'est le rôle du sang. Pour arriver aux divers endroits du corps, le sang a besoin de tuyaux, les artères, les artérioles, les capillaires, et d'une pompe pour le propulser. C'est le cœur. Comme dans tout système hydraulique, il faut de la pression pour que ça fonctionne. Dans le cas de la circulation artérielle, cette pression s'appelle la tension artérielle. Alors, on a défini des normes de tension normales exprimées en millimètres de mercure, qui est une norme actuelle. Et la tension doit être inférieure à 145,90.
Mais alors, on dit que c'est la maladie la plus fréquente en France.
Oui.
Alors, comment ça se fait ? Parce que, bien sûr, cette pression, mais d'où ça vient ? Comment ça se passe ?
Alors, l'hypertension artérielle est effectivement la maladie chronique la plus fréquente en France. Elle est généralement silencieuse, souvent considérée comme anodine par les patients, et si elle n'est pas contrôlée, c'est l'une des principales causes de complications cardiovasculaires.
Oui, c'est ça le problème. Que non seulement il y a ce problème, mais en plus, ça engendre d'autres...
C'est surtout ses conséquences. Oui. Comment arrive l'hypertension artérielle ? Il y a plusieurs facteurs. On ne sait pas, dans la plupart des cas, pourquoi, je vous le redirai tout à l'heure.
Est-ce que c'est héréditaire ?
Alors, on va en reparler, mais peut-être déjà définir les chiffres pour savoir de quoi on parle exactement. On estime actuellement qu'un adulte sur trois a une tension trop élevée en France. Un adulte sur trois.
C'est quand même beaucoup.
C'est énorme.
Mais on s'en aperçoit à partir de quel âge ?
Qu'un hypertendu sur deux l'ignore qu'il est hypertendu.
Ah.
Et que 10 à 30% des patients qui savent qu'ils ont une hypertension ne sont pas bien équilibrés.
Alors, s'ils le savent, le médecin le sait.
Oui,
alors
mais
pourquoi ils ne sont pas...
Soit parce que le traitement n'est pas adapté, soit parce que les patients ne le font pas correctement, et tout ça, c'est très important. Donc la pression qui s'exerce sur les vaisseaux est mesurée par deux chiffres. Quand le médecin vous parle de votre tension, il va toujours vous dire... Alors, il ne va pas vous dire 140-90, comme j'ai dit, mais il va dire 14-9, c'est ce qu'on a plus l'habitude d'entendre, ou 12-6.
Donc, on nous chiffres. Dit, nous... qu'il faut que le deuxième chiffre soit la moitié du premier.
Ouais.
Est-ce que c'est
On a dit ça longtemps, c'est plus tout à fait la norme. Actuellement, donc, le premier chiffre que l'on vous annonce, qui est le chiffre correspondant à la pression systolique, c'est-à-dire la contraction du ventricule cardiaque pour éjecter le sang dans la circulation.
Ouais.
Cette pression normale est de 100 à 140 mm de mercure.
Ça, c'est le normal.
C'est le normal. 140. Au-delà de 145, il faut se méfier. Le plus petit chiffre correspond à la pression diastolique, c'est-à-dire le moment de la relaxation du cœur qui permet au ventricule de se remplir à partir des oreillettes pour recommencer un cycle cardiaque. Et là, les chiffres normaux sont de 60 à 85 mm de mercure. À partir de 90, on parle d'hypertension artérielle. Alors, vous me posiez la question de l'origine. Dans l'immense majorité des cas, là je vais vous décevoir, on ne retrouve aucune cause déclenchante. C'est ce qu'on appelle l'hypertension artérielle essentielle. On ne sait pas pourquoi elle est arrivée là.
C'est pas héréditaire.
Alors, il y a 10% environ ont une cause sur un autre organe. Maladie des glandes surrénales, maladie des reins, une origine endocrinienne, médicamenteuse...
Vous voulez dire qu'on a les deux en même temps ?
Ou génétique, c'est-à-dire que l'hypertension est due à une maladie primaire.
Et
c'est 10%.
Et est-ce que quand on a cette maladie primaire, on pense tout de suite à autre chose? Est-ce que le médecin, tout de suite, dit « on va faire des examens »
En général, il y a d'autres signes, donc on est appelé, on a l'attention appelée. Alors, il y a des facteurs de risque d'hypertension qui sont un petit peu les mêmes qu'on avait vus au moment des émissions sur les maladies coronariennes. Donc, des facteurs sur lesquels on ne peut rien, qui sont le sexe masculin, les antécédents familiaux, comme vous le disiez, il y a un terrain familial.
Ah, les hommes
Oui, les hommes ont plus de risques d'hypertension que les femmes. Mais la naissance prématurée, je ne sais pas pourquoi, mais c'est fait partie des... Le vieillissement, bien entendu.
À partir de quel âge il faut vraiment faire attention?
À partir de 50 ans.
Ah oui, c'est jeune quand même.
Mais ça augmente plus après avec l'âge. Les normes ne sont pas non plus tout à fait les mêmes en fonction de l'âge. On tolère plus facilement des chiffres de 14,5-15 chez quelqu'un de 80 ans qu'avant.
Hein. Ah oui.
Les catégories socio-professionnelles défavorisées sont plus frappées.
Défavorisées, vous voulez dire les gens qui travaillent dans des usines?
Oui, plutôt les gens qui ont une mauvaise hygiène de vie, qui ne se soignent pas bien.
Ah oui, c'est ça plutôt.
Le stress, ça on n'y peut pas grand-chose. Et les origines ethniques, puisque les Antillais et les Asiatiques sont plus soumis à l'hypertension.
Et comment... est-ce qu'on sait pourquoi?
Non. C'est génétique. Attends. Des causes modifiables, qui sont les mêmes que pour les problèmes cardiaques, le surpoids, la sédentarité, le tabac, l'alcool, le diabète, mais aussi l'excès de consommation de sel. Ça, c'est très important pour l'hypertension. Et ce qui est plus curieux et qu'on ne sait pas toujours, l'apnée du sommeil, qui est une maladie tout à fait à part, mais qui...
C'est-à-dire quand on s'arrête de dormir.
Non, quand on s'arrête de respirer la nuit, spontanément, ça engendre des hypertensions.
Donc ça, on peut le savoir.
Il faut faire des tests, c'est pas très facile. Mais ça, on pourra en reparler un jour, si vous voulez.
Ah oui, c'est intéressant.
Pour poser le diagnostic d'hypertension artérielle, c'est essentiellement clinique, avec la mesure de la tension, donc avec un appareil à tension, soit le brassard habituel avec le stéthoscope que le médecin se met dans les oreilles pour écouter, soit un appareil électronique automatique.
Alors vous avez un appareil électronique?
Oui, enfin j'en avais un. Hein, la prise de tension doit être systématique à chaque consultation.
Excusez-moi, est-ce que par exemple il est sage qu'un patient ait aussi cet appareil pour mesurer lui-même?
Oui, tout à fait, on va y venir dans peu de temps. Il y a quelques petits signes qui peuvent mettre en éveil, mais ils sont tellement banals. Des maux de tête persistants ou matinaux, quelques vertiges, quelques petits troubles visuels, des palpitations, enfin des choses banales, des saignements de nez éventuels, ça peut attirer l'attention. Si, en cas de très forte poussée, il peut y avoir des malaises. Donc le diagnostic pour le médecin repose sur la constatation d'une tension supérieure à 145-90, à deux ou trois reprises au cours de la même consultation, au repos, assis ou allongé, et à revérifier une autre consultation. Parce que, bien entendu, quand on arrive chez le médecin, on est stressé.
Voilà, c'est ça.
Pour peu qu'il soit en retard, qu'il y ait du bruit dans la salle d'attente, la tension va monter un petit peu. Donc on va la prendre. Si elle est un peu élevée, on parle d'autre chose, on fait allonger un petit peu. Sauf, bien entendu, une pression très, très élevée, où là, il peut y avoir une urgence. Hein. Mais si on est dans des chiffres limites, on ne se précipite pas.
Oui, moi, j'ai entendu un cas. Et en fait, il sortait du cardiologue et il est mort.
Oui, ça peut arriver. Oui. Et pour affirmer le diagnostic, on va souvent demander aux patients de pratiquer une automesure. C'est là où je vous rejoins, votre question.
Donc il y a des appareils...
Avec un appareil automatique... C'est très facile, vous posez le brassard sur le bras, vous appuyez sur un bouton, et l'appareil vous donne votre chiffre de tension et votre pouls automatiquement.
Et ça, on peut l'acheter facilement.
On l'achète très facilement en pharmacie. Alors, il y a par contre quelque chose de très important à faire, c'est 3 mesures le matin, 3 mesures le soir, 3 jours de suite. C'est le protocole qu'on demande d'appliquer aux gens, et ensuite ils reviennent. Si on a encore un doute malgré ça, on peut faire une mesure ambulatoire de pression, ce qu'on appelle en jargon médical une MAPA. Et là, on va vous installer un appareil automatique sur votre bras pendant 24 heures. Et tous les quarts d'heure, l'appareil va prendre votre tension.
Ah, c'est merveilleux.
Merveilleux, mais pas agréable la nuit, parce que quand il gonfle pour prendre la tension tous les quarts d'heure...
Ça réveille. Tous les quarts d'heure,
pendant 24 heures. Et là, on peut vraiment affirmer. Alors, les complications de l'hypertension, parce que l'hypertension, c'est une...
C'est ça, c'est que ça engendre d'autres problèmes.
Si l'hypertension n'est pas traitée ou mal équilibrée, le risque principal est cardiovasculaire. Donc, risque d'angine de poitrine, d'infarctus du myocarde, d'accidents vasculaires cérébraux, de surcharge du travail du ventricule gauche, pouvant aller vers une insuffisance cardiaque. Mais aussi, risque d'insuffisance rénale, de rétinopathie, donc de destruction de la rétine et de perte, enfin de diminution de la vision, d'artérite des membres inférieurs et un risque majoré de dégénérescence cérébrale.
Oh là 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 là, c'est pas gay du tout tout ce que vous nous racontez aujourd'hui.
Mais c'est pour ça que c'est important de le savoir, de le dépister, en se rappelant encore, comme j'ai dit tout à l'heure, que un patient sur trois qui est hypertendu ne le sait pas, ou même voire même un sur deux.
Donc, et alors s'il le savait?
Eh bien, s'il le savait, donc il y a des mesures hygiéno-diététiques à prendre.
Voilà.
Perte de poids si nécessaire.
Donc ça, il faut le dire à nos auditeurs.
Voilà, plus d'activité physique.
Diminution. Alors, plus d'activité physique. Est-ce que ça veut dire
marcher,
qu'il faut...
Voilà. Marcher, se promener.
Combien de kilomètres
piscine, un quart d'heure par jour, c'est déjà bien. Et diminuer la consommation de sel. Moins de 6 grammes, maximum 6 grammes par jour.
Mais déjà, 6 grammes, c'est beaucoup.
Oui, mais non, parce que dans le pain, vous avez du sel, dans les aliments, il y a du sel, la charcuterie, il y a du sel.
Mais la charcuterie, c'est pas très simple.
Non, mais dans beaucoup de choses toutes prêtes, il y en a. Hein. Donc, c'est pas 6 grammes que vous rajoutez. Après, c'est compliqué. Diminuer l'alcool, arrêter le tabac, ça, bon, c'est banal. Et avoir une alimentation riche en fruits et légumes.
Alors, quand vous dites diminuer l'alcool, ça veut dire que... On a droit à quoi dans ces
deux verres par jour pour une femme, trois pour un homme. Le verre étant la mesure du restaurant ou du café. C'est-à-dire qu'un demi de bière ou un petit ballon de vin rouge ou une petite dose d'alcool fort, c'est équivalent à un verre. Il y a la même quantité d'alcool dans chaque.
Donc pour les femmes, deux verres.
Deux, et pour
les hommes, trois.
Et si au bout... De 2 à 3 mois, les chiffres ne sont pas satisfaisants. On va passer aux médicaments. Il faut savoir qu'une hypertension traitée n'est pas guérie. C'est-à-dire que si le médecin, la fois d'après, vous dit que votre chiffre est normal, si vous arrêtez le traitement, la tension va remonter. Et souvent, elle sera plus difficile à traiter après.
Et quand vous dites traitement, ce n'est pas seulement le régime, c'est un traitement médicamenteux.
Alors, soit les diurétiques pour éliminer de l'eau et du sel... après, c'est très compliqué. Des inhibiteurs calciques pour dilater les vaisseaux. Il y a deux classes importantes qui sont les inhibiteurs d'enzymes de conversion et de récepteurs angiotensine. Là, après, c'est au médecin et au cardiologue de décider. Hein. Ce qu'il faut surtout retenir, c'est que l'hypertension est une maladie très fréquente, potentiellement grave, qui nécessite un traitement sans discontinuer, en sachant bien que c'est une maladie chronique qu'on équilibre, mais qu'on ne guérit pas.
Ah oui, donc dès qu'un patient sait qu'il a cette maladie, il sait qu'il en mourra forcément.
Non.
Non, mais que...
On espère en fait, bien qu'il mourra d'autres choses très
vieux. Il l'aura jusqu'à sa mort.
Mais qu'il faudra qu'il fasse attention à son hypertension et qu'il la soigne, même si ses chiffres sont redevenus normaux.
Donc, chers auditeurs, faites bien attention. Eh bien, pas de sel, du moins pas trop de sel, et aussi être vigilant sur... Le vin, parce que ça, c'est quand même...
Et contrôler sa tension.
Et contrôler la tension. Un grand merci, docteur Roussel. Je sais que vous revenez bientôt pour évoquer encore un de ces chapitres sur l'hypertension. Chers auditeurs, n'oubliez pas que vous pouvez nous retrouver sur notre site internet www.radiograndciel.fr.